Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 111, et comme à l'habitude, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors 111, hein, on avance dans le temps. On s'est même dit d'ailleurs 111, c'est un gros chiffre, hein, on a pas mal avancé. On parle encore de l'Ukraine par contre.
On parle encore de l'Ukraine, on est un an après le début en fait de l'invasion russe en Ukraine, et symboliquement aussi, on en est au 10e paquet de sanctions sur lesquelles se sont mis d'accord les dirigeants de l'Union européenne il y a quelques jours de cela, et on va en parler certainement, avec encore pourtant des difficultés à avoir tous les membres autour de la table. La Pologne a eu quelques réticences pour voter ce 10e paquet de sanctions, comme elle l'avait fait d'ailleurs pour le 9e paquet de sanctions, et j'allais dire de l'autre côté du spectre, la réunion du G20 des ministres des Finances a vu aussi et forcément des points d'achoppement entre les dirigeants européens, occidentaux et les dirigeants chinois et russes.
Ouais, tout à fait. Alors, juste avant la semaine dernière, on a eu une interview aussi avec Anna Colin-Lebedev, qui est une des grandes spécialistes du monde russophone dans la francophonie et en France. Ça fait sujet donc d'un Europa Voice spécial. On a appris beaucoup de choses par rapport à ça. Cette relation de frères, cette relation fraternelle qui a été complètement brisée, et pas simplement depuis un an, hein, on en parle vraiment depuis 2014, l'invasion de la Crimée. C'était quelque chose qui était sous-jacent depuis très longtemps en fait.
Alors d'abord Christophe, vous faites bien de le mentionner, je conseille à tous les auditeurs d'SBS d'écouter ce formidable podcast que vous avez fait. Je vous en félicite parce que
merci.
C'est vraiment un très bon podcast. Mais oui, effectivement, en fait, l'invasion russe d'il y a un an est aussi la résultante de la passivité de l'Union européenne au moment de l'invasion de la Crimée en 2014. C'était déjà des signes avant-coureurs que la Russie avait des velléités qui vont bien au-delà de ses frontières. Et un des enjeux, encore une fois, ça a été très bien dit d'ailleurs par beaucoup d'analystes et même des membres de la majorité qui sont déplacés dans au Parlement ukrainien, la défense de l'Ukraine, c'est avant tout la défense de l'Europe. Et la défense de l'Europe, c'est la défense de l'Ukraine. C'est-à-dire que ce que les Européens jouent en ce moment, par rapport au paquet de sanctions, par rapport à la livraison d'armes, par rapport au débat qu'il y a, est-ce qu'il faut livrer les chars Léopard, est-ce qu'il ne faut pas les livrer, sous quelles conditions, est-ce qu'il faut bloquer tous les avoirs, est-ce qu'il faut être plus sévère comme le veut la Pologne, tout ça en fait, évidemment c'est pour le bénéfice de l'Ukraine, mais c'est aussi un stress test, j'allais dire, pour les Russes, de savoir jusqu'à où ils pourront aller si l'Ukraine tombe entre les mains des Russes.
Ce qui est intéressant, c'est que Anna Lebedev nous expliquait que pour les Russes, l'Europe n'existe pas presque. En tout cas, l'Union européenne n'existe pas. Ils deal, entre guillemets, pour un mauvais anglais, avec chaque pays et non pas avec l'Union européenne. Donc, à quel point vous pensez qu'ils mettent une certaine valeur sur ces sanctions européennes, ou c'est juste de la sémantique?
Non, je souscris tout à fait à l'analyse d'Anna Lebedev. En fait, ça n'existe pas parce qu'il y a les Russes encore, et Poutine notamment, encore ce raisonnement de pays satellitaires, d'ex-république soviétique. Donc c'est impensable pour lui de concevoir que certains de ces pays qu'il pense encore avoir sous son satellite, sous son aile, puissent faire partie d'une autre entité politique. Parce que c'est ça la question, c'est entité politique contre entité politique. Donc c'est inconcevable pour Poutine de se dire que des pays qui devraient être naturellement sous l'emprise au sein de l'entité politique, au sein de la zone d'influence de la Russie, puissent être à la fois aussi dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui crée des difficultés par rapport à l'OTAN et par rapport au fait que des pays comme la Pologne sont aux avant-gardes de l'Alliance Atlantique, avec ce que ça implique en termes, par exemple, d'avoir les Américains qui peuvent utiliser des bases militaires au sein de la Pologne. Donc effectivement, c'est là où en fait il y a deux visions du monde, il y a deux paradigmes qui sont complètement opposés, c'est-à-dire que l'Union européenne essaye de parler d'une seule et même voix, alors que du côté russe, ben, on considère évidemment l'Union européenne, mais en fait chaque pays presque comme un partenaire différent. Et c'est pour ça aussi que les Russes ont des stratégies, des tactiques beaucoup plus offensives avec des pays qui, pour l'instant, que les Russes considèrent toujours sous leur influence. Je ne suis pas sûr que si l'Ukraine tombe, les velléités russes seront exactement les mêmes, par exemple, vis-à-vis de la Pologne, que vis-à-vis d'autres pays plus encore à l'ouest de l'Europe. Donc c'est effectivement cette tension qui est palpable et qui fait que le que le conflit s'enlise. Et puis, l'autre chose, ne l'oublions pas aussi, c'est que on parle des paquets de sanctions. Alors effectivement, là, Bruno Le Maire l'a rappelé, ce sont les sanctions les plus dures qu'on a jamais vues. Ça va être encore de plus en plus dur et ça aura des conséquences sur le temps long. C'est ce qu'avait dit aussi d'ailleurs la trésorière américaine Yensen. Mais d'un autre côté, il ne faut pas l'oublier qu'en 2022, à peine 8% des exportations russes étaient soumises à ces sanctions. C'est-à-dire que les sanctions qui avaient été mises en place par l'Union européenne ne concernaient que 8% de ce que les Russes exportaient. Ça, c'est le premier élément qui font que pour l'instant, on voit mal encore les conséquences de ces sanctions. Le deuxième élément, Christophe, c'est que...
Mais il y a des sanctions, d'interrompre, mais il y a des sanctions bancaires surtout. Le monde SWIFT, par exemple, qui est vraiment la clé des échanges mondiaux, en tout cas en termes de monnaie intra-banque, ça c'est quelque chose qui fait partie du paquet des sanctions, qui forcément cause des problèmes pour les Russes. À la fois les Russes, les ressortissants russes qui veulent envoyer de l'argent, même des diasporas, on pense à la diaspora russe ici qui voudrait envoyer de l'argent en Russie, mais ne serait aussi pour faire sortir des capitaux, si on veut faire sortir ces capitaux et sécuriser ces capitaux ailleurs. Ça doit forcément faire mal.
Non, mais alors, effectivement, Christophe, ça fait mal. Le point que j'essaie de décrire, il est double. D'abord, que, en fait, effectivement, il y a des sanctions. Ça, c'est indéniable. Il y a des sanctions qui sont de deux ordres. Il y a des sanctions pour assécher financièrement la Russie, qui sont à l'œuvre et qui sont de plus en plus, j'allais dire, développées. Et puis, il y a des sanctions aussi par rapport à la fourniture de matériel ou au boycott en fait de certains matériels qui pourraient être envoyés à la Russie. Ça, c'est le premier élément. Les sanctions, elles existent. Mais le problème, Christophe, c'est que encore une fois, c'est que les sanctions, elles sont à voir dans le long terme et de voir en fait quelles ont été jusqu'à maintenant les impacts de ces sanctions. Et le premier élément, encore une fois, c'est que en 2022, avec le temps qu'il faut pour mettre en place ces sanctions, à peine 8% de ce que les Russes, par exemple, exportaient, étaient concernés par ces sanctions. Le deuxième problème, Christophe, par rapport à l'efficacité de ces sanctions, c'est que la Russie a mis en place des politiques économiques, notamment de soutien à l'économie, de soutien fiscal en 2022, qui font que le pays a mieux résisté que ce que les Européens pensaient en 2022. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le deuxième élément, il ne faut pas l'oublier, c'est que les sanctions, on en parle beaucoup du point de vue européen, de l'Union européenne, mais on a encore 60% du monde, du reste du monde, qui n'impose absolument aucune sanction vis-à-vis de la Russie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un transfert, en fait, des échanges économiques, des moyens de financement de la Russie vers d'autres parties du monde. Et c'est pour ça que ces sanctions-là, alors effectivement, on en est déjà au deuxième paquet de sanctions, mais c'est pour ça que les hauts dirigeants politiques, et notamment, je recite Bruno Le Maire, a parlé des conséquences de ces sanctions sur le long terme. Parce que c'est ça, vraiment, c'est une guerre d'usure, ces sanctions.
Ouais, parce qu'on l'avait vu, hein, il y a cette réserve d'argent qui s'amenuise jour après jour pour la Russie. Donc, l'effort de guerre, forcément, va devenir beaucoup plus compliqué. Parlez-nous, justement, de ce paquet, du dixième paquet des sanctions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui peut changer? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer la donne dedans?
Alors, encore une fois, c'est ce dixième paquet de sanctions... Il a deux objectifs. D'abord, c'est encore une fois d'assécher financièrement la Russie et de frapper le plus fortement possible son économie. Et le deuxième aspect de ces sanctions, notamment avec des impacts sur d'autres pays comme l'Iran, le deuxième aspect de ces sanctions, c'est de réduire l'accès aux Russes à des technologies sensibles. Parce qu'on le sait que les Russes, comme il y a ce boycott des pays européens, bah, se tournent vers d'autres pays alliés ou considérés comme alliés pour accéder.
On ne parle pas de ChatGPT ou des choses comme ça, on parle de choses un peu plus pointues quand même.
On parle d'entreprises iraniennes qui fournissent des drones à Moscou, par exemple. Donc effectivement, ouais, voilà. On parle de technologies un peu plus mortifères. Et donc voilà, donc ces sanctions, elles sont là pour ça. Mais à côté de ça, vous avez raison, il y a encore des nouvelles restrictions des exportations de l'Union européenne vers la Russie. Il y a toujours un gel des avoirs. Là, il y a trois nouvelles banques russes dont les avoirs vont être gelés. Donc voilà, c'est en fait à chaque fois on rajoute aux sanctions précédentes un autre paquet de sanctions. Mais on le voit, hein, même au niveau des Européens, il y a encore des dissensions et il y a des pays qui aimeraient frapper plus fort, et c'est le cas notamment de la Pologne qui, tout à la fin des discussions entre Européens, a finalement levé ses réserves pour obtenir, enfin pour valider ce 10e paquet de sanctions sans être totalement satisfaite, hein, puisque je cite hein, le Premier ministre polonais qui jugeait encore ces sanctions trop molles, trop faibles. Donc vous voyez, ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire qu'on a encore de la marge de manœuvre et que c'est pas demain la veille que ces sanctions auront une efficacité de 100% qui feront que Poutine se mettra autour de la table.
Il y a eu aussi cette semaine le grand discours de Poutine qui était très attendu d'ailleurs, notamment par plutôt les gens un peu russophones quand même. Qu'est-ce qu'on en a appris de ce discours de cette est-ce qu'il y a un changement de vision par rapport à la politique de guerre des Russes?
C'est très compliqué parce que en fait c'est un exercice vraiment et là je reprends le mot de certains confrères, c'est un exercice de propagande. C'est-à-dire que ce discours, il est à la fois pour ses propres troupes, mais il est aussi pour ses ennemis, il est aussi pour l'Union européenne, il est aussi pour tous ces pays qui maintenant vont fournir ou sont en train de fournir des chars Léopard. Je pense à l'Allemagne, je pense au Canada, je pense à la Finlande, je pense au Portugal. Donc ce discours, il a deux publics, deux audiences qu'il vise. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir absolument pas un infléchissement du côté de Vladimir Poutine, et donc on voit très mal en fait encore quel va être l'élément qui va faire non pas que la guerre va s'arrêter, mais que tout simplement on sera capable d'avoir tous les acteurs autour de la table pour comprendre vraiment les velléités de part et d'autre. Je suis incapable, Christophe, de le dire, et j'en suis désolé pour les auditeurs d'SBS, mais quelles sont les velléités là de Vladimir Poutine qui feraient qu'il serait prêt à arrêter le combat. Est-ce que c'est l'annexion d'autres zones de l'Ukraine? Est-ce que c'est l'annexion de l'Ukraine entière? Est-ce que c'est la capture de Zelensky? Est-ce que c'est le retrait de certains pays qui considèrent sous son satellite le retrait de ces certains pays ou de l'Union européenne ou de l'Alliance Atlantique? C'est très très difficile de voir ça. Et donc c'est pour ça que je pense que cet exercice, il était avant tout cosmétique et il était là pour montrer que Poutine n'est absolument pas prêt de venir et de se mettre autour de la table pour négocier.
Ouais, tout à fait. Affaire à suivre, en tout cas, sur cette histoire de la Russie. On va parler maintenant d'une autre Madeleine de Proust pour nous, le Brexit qui revient à la charge dans l'actualité. On a trouvé, peut-être, entre guillemets, une solution pour l'Irlande du Nord. Il faut rappeler un peu les choses. L'Irlande du Nord, c'était vraiment le gros point qui causait problème sur la vraie séparation de la Grande-Bretagne par rapport à l'Europe. Ça causait problème pour des frontières, ça causait des problèmes historiques. Il semblerait qu'on ait trouvé une solution.
Brexit is back, Christophe, effectivement. Et d'ailleurs, cet accord entre Rishi Sunak et von der Leyen, cet accord cadre de Windsor, ce cadre de Windsor, en fait, il vient aussi à une période extrêmement symbolique parce qu'on s'apprête à fêter le 25e anniversaire de l'accord qui avait mis fin à trois décennies de conflits sanglants en Irlande. Alors, effectivement.
Les fameux Troubles.
Les fameux Troubles, le Sunday Bloody Sunday et d'autres moments de ce conflit interne à l'Irlande. Mais effectivement, il faut le rappeler pour nos auditeurs d'SBS, c'était que pendant trois ans, on a parlé, on a échangé, vous et moi, du Brexit, de plein de choses autour du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais il y avait toujours quelque chose qui restait en suspens et qui empêchait vraiment les acteurs de dialoguer. C'était absolument pas anecdotique, mais c'était ces questions autour de la frontière double, j'allais dire, à la fois la frontière Union européenne Royaume-Uni, mais également la frontière Irlande du Nord République d'Irlande. Parce qu'il faut le rappeler, en fait, cette frontière Irlande du Nord République d'Irlande, c'est la seule frontière terrestre que le Royaume-Uni a avec l'Union européenne.
Ouais.
Et c'est ça tout l'enjeu.
Mmh. Et cette frontière, on l'a vu pendant trois décennies causer énormément de problèmes puisque elle était donc au cœur de ces troubles, mais entre les catholiques, les protestants. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vient beaucoup plus loin que le Brexit. Par contre, elle a été prise vraiment comme un point d'ancrage entre des négociations qui n'ont pas abouti à l'époque. Il aura donc fallu près de trois ans pour que. Est-ce qu'on peut dire que ça a abouti aujourd'hui, ces négociations?
Alors, moi, j'ai tendance à dire que ça aboutit pour deux raisons. D'abord, pour une raison, j'allais dire administrative, légale, c'est que cet accord cadre de Windsor, il met effectivement un cadre à la situation de ce qu'on avait appelé à l'époque le backstop irlandais, le filet de sécurité irlandais. Peut-être juste pour le rappeler pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, la situation avant cet accord, c'était qu'en 2020, il y avait un protocole nord-irlandais qui avait été signé et qui réglementait la circulation des marchandises entre le reste du Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, qui a cette frontière terrestre avec la République d'Irlande, membre de l'Union européenne. Et cet accord, il avait été négocié par Boris Johnson pour deux choses. Hein, pour éviter d'abord l'instauration d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, qui fragiliserait la paix de ce pays déjà très divisé, sur lequel on ne voulait pas remettre de frontières. Et puis, deuxième aspect, ça permettait en fait de protéger le marché unique européen. Parce qu'on était d'accord, évidemment, de ne pas mettre de frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, mais il fallait quand même qu'il y ait une frontière entre les pays hors Union européenne et les pays de l'Union européenne pour protéger le marché européen parce que les Britanniques avaient décidé d'en sortir. Donc en fait, ça c'était la situation avant, et ce que ce compromis a permis de trouver, c'est que en fait, il va plus... Et donc pour faire ça, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un contrôle en fait en mer d'Irlande. Il y avait un contrôle... Mais le problème, c'est qu'avec ce contrôle en mer d'Irlande, on avait beaucoup d'indépendantistes qui râlaient et qui trouvaient que c'était pas normal que ce soit les lois européennes qui régissent en fait les contrôles, les douanes, etc. dans une partie du pays qui finalement ne fait pas partie de l'Union européenne. Et donc on a dû trouver un compromis, et c'est ce qui s'est passé là entre Rishi Sunak et Ursula von der Leyen.
On en est loin des discussions que Theresa May avait à l'époque avec l'Europe. On sait que c'était un des gros points de discussion qu'elle avait sur son agenda, qui au final lui aura coûté son poste. On en est loin de ça.
Oui,
c'est quoi la différence en fait?
Non, on en est loin pour la simple et bonne raison, c'est que Rishi Sunak, en fait...
Ma question derrière, c'est qui a gagné? Qui a gagné dans les négociations? Est-ce qu'on peut voir un vainqueur ou pas?
En fait, on peut voir surtout que c'est un aveu de la part de Rishi Sunak, qui, rappelons-le pour nos auditeurs, qui est un supporter du Brexit. Rishi Sunak, il n'est pas sur la même ligne que Johnson, mais c'est un supporter du Brexit. Mais qui s'est à peine caché comme aveu, qui montre qu'il est obligé de négocier avec ses partenaires européens et d'adopter une position, j'allais dire... Boris Johnson, il était... Depuis le début de ce Brexit, il était sur une position qui flattait l'ego des partisans les plus caricaturaux.
Hardcore,
caricaturaux, pro-Brexit. C'est la première fois, ou en tout cas depuis Boris Johnson, qu'on a un Premier ministre britannique qui fait preuve d'un peu, non pas de flegme, parce que les Britanniques sont habitués à ça.
D'humilité,
je ne sais pas, mais en tout cas de réalisme, de pragmatisme. Les exportations britanniques ne vont pas bien. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir encore une fois un conflit larvé qui mettrait encore une fois, le problème c'est que ça met en péril à la fois les échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais ça met aussi en péril ce qui se passe pour le Royaume-Uni lui-même. Et donc Rishi Sunak qui fait aussi un pas en avant, donc moi je pense que c'est surtout une victoire, c'est pas tellement une victoire pour von der Leyen qui elle ramasse seulement les fruits d'un épiphénomène presque à l'heure où il y a les problèmes climatiques, il y a un conflit sur le sol européen, mais c'est surtout pour Rishi Sunak de revenir dans le jeu des échanges entre partenaires historiques au sein de l'Union européenne, ou en tout cas de l'Europe géographique. Et puis, autre élément, analyse que j'ai lu, qui n'est pas tout à fait dénué de sens et d'intérêt, c'est qu'il veut aussi renouer avec son grand frère américain, Joe Biden, qui, rappelons-le, est originaire, dont la famille est originaire d'Irlande.
D'Irlande, tout à fait. Ouais.
Et donc, c'est aussi une manière pour lui de ne pas raviver le feu.
Enfin, 80% des Américains sont irlandais, si on leur demande. Il faut quand même aussi...
Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que Rishi Sunak fait preuve d'un certain sens de la réelle politique. Ce qui n'est pas encore réglé, Christophe, parce que là, on vient de décrire en fait, ce qu'il y avait avant. On vient de décrire en fait, ce qu'on trouve dans ce compromis, cet accord cadre de Windsor. Pour l'instant, c'est quand même encore de la bonne volonté de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on promet de finalement supprimer les contrôles aux douanes. On promet d'avoir une bureaucratie qui sera moins élevée. Mais après, dans les faits, il faut le rappeler, c'est quand même l'Union européenne qui aura le dernier mot. Et c'est notamment la Cour de justice européenne qui aura le dernier mot concernant les règles qui régissent le marché unique. Et donc, en fait... Ce qui fait qu'il peut toujours y avoir un conflit larvé si les plus farouches opposants à cet accord cadre de Windsor estime que ce n'est pas à la Cour de justice européenne d'avoir le dernier mot sur ces règles régissant les marchandises, les douanes, etc.
On sait à quel point ou comment s'est reçu ça en Irlande du Nord, parce que c'est vraiment la zone tampon qui était vraiment au cœur des débats. On va sûrement être déçu à un moment ou à un autre, on pourra plus avoir les petits écoliers, les petits produits européens, français, parce que jusqu'à maintenant, eux étaient toujours dans la capacité d'avoir des produits qui venaient d'Europe sans avoir à passer par tous les obstacles que les Britanniques eux-mêmes peuvent avoir. Ça va changer. On a des réactions déjà, ça s'est lu, vous avez lu ça quelque part ?
Les partisans de l'Irlande du Nord, ce qu'ils ne voulaient pas, en fait, c'était que le droit européen, si vous voulez, s'applique dans la province britannique et fasse qu'en fait, il ait la primauté sur les règles qui régissent le Royaume-Uni.
Donc petit écolier ou pas petit écolier.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, pour eux, il y a presque aussi quelque chose de façade, c'est-à-dire... il est hors de question qu'un droit d'une entité politique à laquelle ils n'appartiennent pas puisse s'appliquer.
On peut pas leur en vouloir, hein. C'est quand même assez logique.
Non, mais c'est assez logique. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça qu'on en est encore. Pour moi, c'est très symbolique encore, mais c'est une victoire pour l'instant temporaire de Rishi Sunak. Maintenant, il va falloir voir. Moi, je donne rendez-vous aux auditeurs d'SBS au moment où il y aura les premières tensions pour voir, en fait. Est-ce que cet accord cadre de Windsor, qui a été trouvé finalement assez rapidement par Rishi Sunak après son accession à la tête du Royaume-Uni, est-ce qu'il va résister aux premières tensions qui feront jour entre la République d'Irlande, l'Irlande du Nord, le Royaume-Uni et l'Union européenne? C'est ça pour moi vraiment le véritable stress test, mais pas tellement par rapport aux farouches opposants en Irlande, mais on sait déjà que l'opposition à Rishi Sunak au Royaume-Uni votera aussi en faveur de cet accord. C'est-à-dire qu'au moins, il a obtenu la paix civile au sein du Royaume-Uni, où on sait que sa prédécesseuse n'a pas tenu très longtemps. Donc c'est aussi quand même, c'est pour ça que je mets en valeur le gain pour l'instant que Rishi Sunak a, parce qu'il renoue avec les partenaires européens, il arrive à faire consensus au sein du Royaume-Uni, et puis il semble pour l'instant que, et du côté de l'Union européenne et du côté des indépendantistes européens, ça tienne la route. Donc on ménage la chèvre et le chou. Mais encore une fois, on va avoir le premier test et la première tension autour de cet accord.
Absolument, affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci beaucoup.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.